bienvenue à Esperanza.
Esperanza.
Esperanza, c'est aussi un engagement pour la justice climatique.
Débat sur Radio Esperanza.
Oh, que
c'est hyper intéressant.
Mais c'est toi qui dois savoir ce qui va.
Ça fait débat.
Justice climatique.
La justice climatique
fait débat sur Radio Esperanza.
Quoi ? Justice climatique.
Donc à l'instant, on salue Ombeline, en fait, qui nous a concocté ce super jingle pour l'occasion, justement, des débats sur la justice climatique. Donc nous y sommes dans les studios de Radio Esperanza, tel qu'on vous le disait juste avant la pause musicale. Nous ont rejoint Sarah Dujardin, Hugo Rougirs et Antonella. Malheureusement, je ne connais pas ton nom de famille.
La Catena.
Voilà, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans les studios. Aujourd'hui, on va rester ensemble une petite heure et on va parler de la thématique du festival, forcément, la justice climatique. Et festival, puisque chacun, vous faites partie d'une des associations qui est dans le village de la justice climatique. Et on va voir un peu avec vous quels sont les propositions que vous faites au festivalier, comment est-ce que vous faites participer le festivalier, qu'est-ce qui est proposé comme activité, et voilà, faire le lien entre le village associatif, vos organisations, la thématique, et donc vraiment se focaliser sur le festivalier.
Se focaliser sur le festivalier, puisque bah, les gouvernements, que ce soit dans les différents sommets comme Copenhague, comme Rio et tout ça, bah, les gouvernements, ils disent de bien belles choses, mais finalement n'en font pas beaucoup au niveau politique. Donc est-ce que pour vous, finalement, comme les politiques ne font rien, autant que chacun se prenne en main et fasse changer les choses ?
Peut-être dans un premier temps, si vous voulez vous présenter chacun.
Pas bête aussi, tiens d'ailleurs.
Donc d'accord. On peut commencer par Hugo, vas-y.
Ouais. Donc moi c'est Hugo, je travaille chez Oxfam, magasin du monde. Et moi je m'occupe surtout des jeunes. Donc je travaille notamment dans les écoles où j'appuie des groupes actifs dans la sensibilisation dans différentes écoles. Et d'autres jeunes militants qui participent à des manifs, à des événements militants, des voyages, parfois des sommets à l'étranger. Et donc nous avec Oxfam, Oxfam est surtout connu pour le commerce équitable, mais c'est vrai qu'on a au-delà de ça tout un volet de sensibilisation très important pour nous. On veut vraiment amener les gens à réfléchir sur leur consommation et sur un petit peu les rapports nord-sud. Donc on trouvait notre place aussi en tant que membre du CNCD dans cette campagne justice climatique, parce que le climat, aujourd'hui on ne peut plus rien détacher. On peut plus parler du climat sans parler du social, de l'économique, de l'environnemental. Et donc ici on s'est focalisé sur l'aspect climatique, mais on va le voir que finalement tout ça est très fort lié.
Donc moi c'est Sarah, moi je travaille pour le CNCD 1111. Donc le CNCD 1111 c'est une coupole d'ONG de développement. Et on a trois missions, donc tout ce qui est interpellation politique, donc interpeller le politique pour faire avancer les choses sur pas mal de thématiques liées à la solidarité internationale. La sensibilisation, c'est ce qu'on fait ici dans le cadre du festival Esperanza. Et aussi l'opération 1111, qui est une récolte de fonds pour soutenir des projets de développement dans le sud. Et donc c'est moi qui étais chargée ici de coordonner le village de la justice climatique et donc coordonner le collectif composé des différentes associations.
Antonella.
Oui, donc moi c'est Antonella, je travaille chez SOS Faim, donc SOS Faim qui est une ONG membre du CNCD 1111 également. Chez SOS Faim, je suis responsable de la mobilisation, enfin je ne suis pas responsable, j'interviens en appui à la mobilisation et à tout ce qui est relatif à la campagne. Et donc voilà, SOS Faim, en quelques mots, c'est une ONG de développement qui existe depuis maintenant plus de 45 ans et on intervient en appui à des organisations paysannes du Sud, essentiellement en Afrique et en Amérique latine.
Voilà. Merci.
Oui, parce que c'est ce qu'on faisait comme réflexion hier quand on a fait notre premier débat sur la justice climatique, c'était que le constat, c'est que finalement le climat se dérègle, c'est clair, net et précis, on va vers un réchauffement climatique et qui sait qui en pâtit, parce qu'on parle beaucoup... Tu parlais des paysanneries au niveau des paysans du Sud, ben ce sont les gens du Sud. Un petit constat, est-ce que SOS Faim travaille vraiment aussi sur ces questions de climat, c'est une réflexion assez importante pour vous ?
Mais on va dire, nous, on travaille vraiment en partenariat avec des organisations paysannes qui, elles, depuis quelques années, on se rend compte de plus en plus, elles sont vraiment préoccupées par ce phénomène. Donc, ces paysans avec lesquels on travaille sont de plus en plus impactés par les changements climatiques. Et donc, effectivement, ils nous interpellent de plus en plus et nous demandent notamment de relayer leurs paroles ici et de montrer un peu l'impact des changements climatiques sur leurs activités.
Et donc au niveau d'Oxfam aussi, finalement, parce qu'on parlait de commerce équitable, le commerce équitable, c'est donc un commerce équitable, c'est très malin, entre le Nord et le Sud. Et donc là aussi, je suppose que les réflexions des producteurs locaux sur les questions climatiques vous reviennent également ?
Voilà, en fait, historiquement, le commerce équitable était beaucoup plus axé sur l'aspect économique et sur les différences, même socio-économiques, entre le Nord et le Sud. Et on a vu depuis 10-20 ans de plus en plus la question écologique, environnementale émerger parce que finalement, ça devient tellement important. Et comme disait Antonella, les phénomènes de réchauffement climatique sont déjà tellement présents dans certains pays du Sud qu'on ne peut plus dissocier la question. Et donc quand on parle d'un commerce équitable, c'est aussi parler d'un système équitable où les pollueurs assument leurs responsabilités et où on puisse défendre les petits producteurs qui sont moins responsables et qui justement eux proposent des systèmes de production beaucoup plus écologiques, respectueux et des gens et de l'environnement. Et donc quand on parle de commerce équitable, aujourd'hui on l'entend dans un sens vraiment large et donc c'est à ça aussi qu'on veut sensibiliser avec Oxfam.
Ouais, mais ça me paraît assez intéressant tout ça, dans le sens où forcément on peut pas dissocier les deux. Il y a eu, enfin comme on en parlait hier, les autres thématiques qu'on avait travaillé sur le festival, notamment la souveraineté alimentaire. Voilà, pour nous est directement lié au problème de réchauffement climatique aussi, puisque bon, c'est politique, c'est sûr, c'est social, mais la politique et l'économie ont ce rôle en fait à jouer au niveau du climat et du bien-être de la planète pour permettre une égalité. Qu'est-ce que
Mais moi, j'ai envie de rebondir là-dessus en disant qu'on est de plus en plus dans une approche systémique, une approche globalisée, où il n'y a plus les organisations qui parlent de l'environnemental, celles qui parlent du social. L'approche globalisée, ça veut dire que tout est lié et que quand on parle de consommation, on parle de production, quand on parle d'environnemental, de social, d'économique, finalement, on est dans un seul et même problème. Et quand on dit un autre monde est possible, c'est ça, c'est un monde à réinventer. Et à tous les niveaux. Et c'est très dangereux, je pense, d'aborder des problèmes seulement sous un aspect, parce que finalement, les réponses sont parfois dans d'autres composantes. Et donc, si on ne regarde pas le problème au niveau global, voilà. Mais ça, c'est quand même quelque chose qui avance pas mal, qui fait son bonhomme de chemin dans la réflexion, notamment auprès des ONG, où de plus en plus, on réfléchit à un niveau global.
Et justement, cette façon de penser systémique, quand on s'adresse au grand public, c'est facile ?
Non.
Parce que c'est quand même une nouvelle façon de penser aussi. Comment ça se passe ?
Tout à fait. C'est pas évident. Néanmoins, voilà, on travaille aussi sur les processus d'éducation, de sensibilisation, mais c'est vrai que c'est plus facile de dire, voilà, il y a un problème, il y a une entreprise qui fonctionne mal, on va faire pression sur cette entreprise et tout va aller bien, ou il y a une forêt. Non, ici, on est vraiment dans un problème global, et donc un problème en entraîne un autre qui en entraîne un autre, et donc parfois le grand public, il dit, mais où ça va s'arrêter ? Et donc, à la place de parler du problème, ça nous oblige à un petit peu changer notre angle de vue. Et quand on parle au public, c'est plutôt de partir de ce qu'on voudrait, enfin des solutions qu'on voudrait mettre en place et de cet autre monde dans lequel on veut vivre. Et donc, à la place d'être sur les constats, c'est vraiment, nous, ça nous oblige un petit peu à aller plus loin et à déjà se projeter dans le futur parce que c'est plus facile de sensibiliser le grand public quand on lui parle du monde qu'on pourrait inventer demain.
Qu'on pourrait
Il faut.
Donc voilà, justement, en parlant de public, ben le public d'Esperanza, comment est-ce qu'on lui met ça sous les yeux ? Quelles sont un peu les actions, je regarde les filles, quelles sont un peu les actions qu'on met en place ? Qu'est-ce qu'on propose comme activité ? Je veux dire, je suppose que c'est pas voilà, un papier qui explique. Non, il y a vraiment un acte à poser. Qu'est-ce que vous proposez ?
Donc nous, on a On a fait un travail de 3-4 mois là, pour monter tout un village sur la justice climatique. On a pensé à différents moyens pour interpeller et sensibiliser le public, à savoir que tout individu est différent et que donc il y a différents moyens aussi d'aller dans le fond de la thématique. Donc on a pensé et imaginé différents espaces, notamment un espace qu'on appelle le climatoscope, qui est en fait analysé au microscope la question climatique. Donc c'est vraiment plus un espace de fond où le festivalier est amené à avoir une exposition, des capsules, ou à vraiment à appréhender la manière thématique de manière plus approfondie. Il y a un espace qui s'appelle le salon du greenwashing, qui est un espace plus ludique, parce qu'on s'est dit c'est important aussi d'avoir quelque chose d'attractif, d'attirant, enfin de beaucoup plus ludique, où le festivalier peut jouer quelque chose et être mis en scène. Et puis il y a l'espace de la balance, qui est un peu l'espace final, l'espace de conclusion, parce que c'est important qu'on sensibilise un public qui ait aussi des engagements qui soient pris. Donc la balance, c'est vraiment le but, c'est de faire pencher la balance du côté de la justice climatique. C'est une balance sur laquelle d'un côté il y a un plateau avec tous des objets de consommation pour montrer le modèle de société énergivore, et puis les festivaliers peuvent poser des bûchettes avec des engagements, en fonction des engagements qu'ils ont choisis.
Des bûchettes.
Morceaux
de bois.
Des petits morceaux de bois qui correspondent à un engagement social, politique ou environnemental qu'ils veulent prendre. Et donc, ils la posent sur la balance, le plateau de la balance, pour la faire pencher du côté de la justice climatique. Donc, ça, c'est vraiment la conclusion. Puis, il y a aussi l'action directe Sing for the Climate, où ils peuvent aller chanter directement pour le climat. Mais je propose peut-être que les autres racontent les deux espaces dont ils sont responsables.
Bonne idée. Antonella.
Mais donc, je ne suis pas responsable de nouveau, mais j'ai été impliquée dans la création du climatoscope. Donc, il faut savoir qu'au sein du CNCD, les ONG membres se sont rassemblés pendant quelques mois pour imaginer un peu tout ce qui est présenté aujourd'hui. Et donc, on était à plusieurs à imaginer tout ce système. Alors, le climatoscope, l'idée, c'était de permettre un peu aux festivaliers de prendre le temps d'en savoir un peu plus sur cette justice climatique, sur les impacts des changements climatiques et aussi sur l'exploitation inéquitable des ressources naturelles. Donc, dans ce climatoscope, on retrouve en fait les trois ressources phares de la campagne, donc eau, terre et forêt. Et donc, le festivalier est invité à venir recomposer des puzzles, en fait, des puzzles géants. Deux puzzles par ressource, et donc on les invite à partir d'un chiffre clé, un chiffre interpellant, de recomposer ces puzzles avec une photo, avec un petit témoignage qui met un peu en vie cette problématique, et un planisphère déformé. Voilà, le mieux c'est quand même d'aller faire un petit tour.
Oui, parce qu'on est dans le concret, du moins directement, là le festivalier il agit quelque part, il doit jouer, non
c'est, Oui c'est un jeu, mais c'est un jeu qui demande quand même une réflexion, ça prend du temps, il faut lire un peu. Donc Hugo expliquera après le deuxième pôle, qui est le pôle du greenwashing, et qui est un peu plus, où le festivalier est vraiment impliqué de manière directe.
Le greenwashing, Hugo, c'est quoi le greenwashing?
Alors, le greenwashing, en fait, c'est des stratégies de publicité que les grosses entreprises utilisent pour faire croire que leurs produits sont écologiques et vont sauver la planète et pouvoir en vendre plus. Alors que derrière, il n'y a pas toujours la démarche qui suit. C'est surtout une opération de communication. Et donc, les ONG ou les associations, elles tiquent toujours quand elles voient ce genre de procédé.
Comme par exemple un grand marchand de meubles connu, parfois, il joue un peu là-dessus.
Voilà, exactement.
Ah oui, comment ?
Mais parfois, il y a certains meubles, ils te disent que c'est beau, c'est propre, c'est bien.
Ou les voitures
vertes. Les voitures.
Les voitures vertes, oui.
C'est l'exemple le plus flagrant.
Les télévisions à LED.
Acheter plus de voitures et sauver la planète, bien sûr, parce que nous savons très bien que c'est en achetant des voitures que nous allons sauver la planète.
Le concept de développement durable en soi, c'est déjà du greenwashing. Hein.
Ouais, on pourra en parler après un petit peu quand on arrivera plus dans le fond, mais c'est clair qu'il y a beaucoup de réflexions autour du mot même développement, c'est sûr.
La croissance verte.
Ouais. Voilà, exactement. Mais pour en revenir à ce salon du greenwashing, je voudrais peut-être juste expliquer un peu l'état d'esprit dans lequel on a créé cette activité. On voulait dénoncer le greenwashing, mais on voulait aussi une activité qui puisse s'adresser aux festivaliers de manière différente. Et donc, Souvent, c'est difficile, on en parlait tout à l'heure, de sensibiliser les festivaliers parce qu'ils ne sont pas toujours là, ils ne sont pas toujours venus pour se faire sensibiliser. Voilà, ils sont là pour la musique, ils sont là pour la fête. Et donc, quand on arrive avec des questions plus de fond, plus techniques, plus pratiques, ils n'ont pas toujours envie de prendre du temps pour ça. Et d'un autre côté, il faut aussi éviter de tomber dans des discours moralisateurs. Ce n'est pas facile parce que c'est vrai qu'on a envie de dire « mangez moins de viande, prenez votre vélo ». Mais il y a quand même un côté un peu « faites ça, faites ci ». Et ce n'est pas toujours très agréable de le présenter de cette manière-là. Et donc, on s'est dit bon, « on va essayer d'amener l'aspect vraiment, d'amener ces questions-là de manière ludique ». Et même peut-être de manière provocante pour un petit peu prendre le festivalier d'une manière où il ne s'attendait pas. Donc on a décidé de créer un espèce de salon avec des scientifiques qui vont présenter toute une série de produits complètement farfelus qui vont sauver la planète. Et donc le discours complètement provocant, c'est de dire continuez à consommer, continuez à garder votre mode de vie, ne vous tracassez pas tous ces discours alarmistes, moralisateurs. Continuez à consommer tel que vous le faites et de toute façon la science apportera toutes les solutions, donc il n'y a pas de problème. Et donc on peut trouver dans ce salon du greenwashing la pâte alimentaire chimique qui va remplacer tous les aliments parce qu'elle sera créée en laboratoire, on n'aura plus besoin de cultiver, donc plus de soucis avec ces problèmes de champs, de réchauffement, de désertification.
On pourra couler une chape de béton dessus, de
toute
façon.
Oui, voilà, il n'y a pas de problème. Alors on a...
Il y a des voitures vertes.
Ben justement, on a une voiture qui ne pollue pas, mais qui recycle l'air en roulant. Donc au plus on roulera et au mieux ce sera pour l'environnement. On a un village aquatique. Alors pourquoi un village aquatique? C'est parce qu'on sait qu'à cause de la fonte des glaces, ben, les eaux vont monter. Et plutôt que de se casser la tête à essayer de réduire notre consommation d'énergie, pour éviter les trous dans la couche d'ozone, autant jouer le jeu à fond et aller habiter dans la mer, puisque finalement la technologie nous permettra d'habiter dans l'eau.
Ouais, voilà. C'est une forme de résignation.
Voilà.
De donc, toute façon, on ne va rien essayer de changer, mais par contre, on va s'adapter.
On va s'adapter et la technologie est tellement puissante et tellement extraordinaire qu'elle va adapter. Et donc, ces scientifiques présentent tous ces différents prototypes, mais vraiment de manière provocante, pour pousser un peu les gens dans les réflexions. Et les gens vont dire, mais tiens, c'est vrai, au fond, peut-être qu'il faudrait qu'on réfléchisse un peu autrement. Et finalement, c'est vraiment une animation qui fait appel à l'intelligence des gens. Où finalement, on va les provoquer et finalement, ils vont se dire « Mais tiens, on me prend pour un imbécile. » Et alors, c'est chouette parce que les gens argumentent eux-mêmes en disant « Mais non, ce que vous dites, c'est n'importe quoi. » Et c'est intéressant parce qu'à la place que ce soit nous qui venions les sensibiliser, c'est eux qui font émerger d'eux-mêmes ce qu'ils savent déjà. Et c'est vraiment une bonne manière comme ça de réfléchir.
Vous aviez déjà pu expérimenter ça ailleurs ou vous l'avez monté exprès pour le festival?
Alors, ce village du greenwashing, c'est une trouvaille pour le festival, mais maintenant le mode de sensibilisation qui provoque, ça c'est quelque chose qui tend à se développer. Alors il y a sans doute que les gens connaissent les fameuses manifs de droite. En fait, c'est très drôle, c'est dans la rue des gens qui vont manifester, mais qui prennent complètement les discours à contre-pied, donc c'est non au transport en commun, que les pays du Sud payent leurs dettes, machin. Et donc les gens dans la rue sont là, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est vraiment provoquer les gens pour les pousser à leur sens critique et qu'ils réfléchissent un petit peu, quoi. Et donc, le ton de la provocation et le ton, retourner complètement le discours est pas mal utilisé par les ONG parce qu'on se rend compte que ça marche mieux que les prendre de manière habituelle, quoi.
Mais est-ce que parfois il n'y a pas des gens justement, mais dans la réalité, qui tiennent des discours comme cela, que les pays du Sud payent leurs dettes? Parce que, enfin, est-ce qu'on n'a pas peur justement, il y a peut-être certaines personnes. Ah, mais moi j'ai déjà entendu quelqu'un qui m'a dit ça une fois.
Oui, mais les gens, il y a des gens qui le disent et qui le pensent, mais ils le disent pas publiquement parce que. Je ne sais pas s'ils sont vraiment très fiers et si les valeurs qui sont derrière sont des valeurs qu'ils ont envie de proposer. Et donc, c'est rare qu'on voit des manifestations comme ça. Et donc, en même temps, c'est pour amener le débat. C'est pour dire, voilà, nous, on amène toujours un discours. Ici, on amène un peu l'autre. Et ça va amener les gens un peu à réfléchir. Et l'idée, je pense que ce sera beaucoup plus fort si on amène les gens vers un esprit critique que si jamais on leur dit, les ONG vous disent que vous devez penser comme ça, comme ça. Tandis que si jamais on amène un peu la réflexion, voilà, les gens vont être amenés un petit peu à se poser des questions eux-mêmes. Nous, on leur amène de l'information. Et je crois que si jamais ils ont fait le cheminement eux-mêmes, ça va être beaucoup plus durable, entre guillemets, dans leur propre parcours, que si jamais on leur dit ce qu'ils doivent penser.
Sarah, tu voulais intervenir?
Oui, je voulais juste dire qu'on part vraiment à chaque fois dans le concept du greenwashing de choses qui existent déjà, qui sont réelles, qui sont mises dans les publicités pour vraiment les tirer jusqu'à l'absurde, pour déconstruire cela au maximum. Il faut savoir aussi que donc, les festivaliers passent par ces jeux de rôle, les voient, les, sont un peu mis en situation, peuvent toucher, tester des choses, notamment tester la nouvelle pâte alimentaire, des choses comme ça qui va sauver la faim dans le monde. Mais ça, ça part toujours d'exemples réels. Donc, par exemple, il y a le Golden Rice, qui est un riz qui a été créé pour, soi-disant, sauver le problème de la faim dans le monde. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils passent par ces jeux de rôle, mais à la fin, on leur propose un détournement d'affiches avec le collectif Lamar. Et donc, c'est vraiment, ils s'appuient sur des pubs qui existent déjà, donc publicité de voitures, etc. Et ils invitent le public à les détourner. Et donc, c'est assez sympa parce que le public peut aussi être amené à, voilà, à se poser et à vraiment réfléchir à, tiens, comment moi je vais détourner, comment je pourrais imaginer soit pire, soit autrement le greenwashing.
Mais finalement, c'est amener le festivalier à une réflexion ou un changement aussi de sa façon de faire, de sa façon de vivre, de sa façon finalement de consommer. Et c'est quoi finalement le but ultime ? C'est de consommer intelligemment ou de plus consommer ou consommer plus intelligemment ?
Donc le but évidemment c'est de faire de l'éducation au développement, donc c'est d'amener les gens à changer leur mode de comportement. C'est un processus évidemment qui est à long terme, c'est pas forcément en passant dans un village qu'ils vont changer du jour au lendemain leur mode de comportement, mais c'est vraiment donc les sensibiliser et essayer de montrer plein de types d'engagements qu'ils pourraient prendre dans leur vie quotidienne ou collectivement, donc avec d'autres individus autour d'eux, parce que c'est le collectif qui est le plus important, surtout sur une question comme le climat. Maintenant, c'est clair que nos petits actes individuels ne suffisent plus. Il faut vraiment qu'il y ait des changements de l'ordre politique.
Ouais. Voilà. Mais ça fait écho à la question que tu posais juste au tout départ de l'émission. En disant,
oui, parce qu'on n'y a pas répondu, alors voilà. Je venais frustrée.
Mais justement, je voulais y répondre. En fait, à la question, est-ce qu'il faut que les politiques changent ou est-ce qu'il faut que les gens changent, ben, la réponse, c'est les deux. Il faut qu'il y ait des changements individuels, des changements collectifs, des changements politiques. Alors, on essaye toujours, les grandes entreprises, elles aiment bien les campagnes en disant les gens doivent changer individuellement. Ça ne les concerne pas. Ouais. Et d'un autre côté, ben, les gens, parfois, ils aiment bien dire oh, c'est le politique qui doit tout changer. Mais non, c'est à tous les niveaux qu'il va falloir changer.
J'ai entendu des discours, puisque les entreprises ne trient pas leurs déchets, je ne trierai pas mes déchets.
Mais c'est le discours, puisque mon voisin, voilà. il fait du bruit avec sa tondeuse le dimanche, moi je fais pareil.
Voilà, c'est ça. Mais je veux dire, c'est à partir du moment où il y a des gens qui pensent comme ça, bah alors forcément, là oui, ça met en évidence qu'il faut un changement des deux côtés. Quoi.
Oui.
Parce que si le poids repose, si les campagnes ne reposent que sur le travail individuel des citoyens, c'est un peu lâche. Mais voilà, que le travail se fasse à un plus haut niveau aussi.
Mais en même temps, c'est clair que ça doit venir des citoyens. Si rien ne bouge au niveau politique, c'est les citoyens qui doivent collectivement prendre les idées pour qu'elles remontent. Il n'y a pas d'autre solution. Je ne crois pas que la solution soit de dire vu que rien ne bouge, je ne vais pas bouger non plus. Là,
Non, c'est clair.
S'il y a bien un bien commun, c'est à tous, c'est la planète. Donc dans ce cas-ci, c'est clair qu'il faut trouver des solutions collectives et vraiment les faire remonter, que les choses avancent enfin.
Et c'est par le biais d'ONG, parce que finalement, si. Enfin, d'ONG, de couple, de plateforme, de. Enfin, bon. Parce que c'est vrai qu'individuellement, si chacun agit, on va dire correctement, enfin, dans le bon sens, vers. C'est vrai qu'à un moment, on se dit, c'est pas en faisant des efforts individuellement que ça va changer. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui va moins allumer la lumière, qui va moins tirer la chasse, qui va moins consommer. C'est pas ça qui va faire changer les problèmes climatiques tant que, en effet, il n'y a pas de politique qui mettent en place ce problème de pollution. Donc c'est dans le je sais pas comment on appelle c'est votre dossier parce que j'ai pas la couverture.
Le guide du volontaire.
Voilà. qui en fait explique très bien au niveau de la justice climatique, c'est clairement on consomme beaucoup trop, mais c'est vrai que c'est par rapport aussi aux entreprises, enfin c'est les usines, c'est tout ce qu'on c'est là-dessus aussi qu'il faut agir et peut-être en premier, non ?
Il faut pas oublier que le politique dans une démocratie, normalement, c'est le résultat de nos choix. Donc, en tant que citoyen.
Normalement, j'aime bien normalement.
Donc, c'est aussi à nous d'interpeller. En tant que citoyen, on peut agir individuellement dans notre façon de consommer, etc. Mais on peut aussi interpeller nos politiques et on peut le faire au travers d'ONG, mais on peut le faire d'autres manières.
Dans les urnes.
Notamment, oui.
Parfois, ça marche.
Le meilleur moyen d'interpeller les politiques, c'est quand même déjà à nous, à la base, de changer nos comportements. On ne va pas interpeller les politiques sans nous montrer l'exemple. Ça n'a aucun intérêt.
C'est marrant, c'est retourné le truc, parce que d'habitude, on se dit que c'est le politique qui montre l'exemple. Et,
Je crois que c'est les citoyens qui ont le pouvoir.
Mais ouais. C'est les deux, et c'est super important. En même temps, nous, avec Oxfam, on aime bien amener, quand on parle de sensibilisation, le principe, ce qu'on appelle c'est la tenaille, c'est finalement, en amont, il y a faut faire pression sur les entreprises, sur le politique, et à la base, travailler avec la population. Parce que si jamais on n'avait que des experts qui travaillaient avec les politiques et que finalement, on ne prenait pas la population avec, bon, on pourrait faire des lois, mais si jamais ces évolutions de société ne sont pas non plus portées par le public, parce que le changement de loi, ça peut dire aussi des taxes, des choses qui sont aussi des choses qui seront vécu par les gens à la base. Et donc, si jamais ce n'est pas quelque chose qui est porté collectivement, ça n'ira pas. Donc, il faut vraiment travailler sur les deux niveaux. Et le politique, il va aussi accepter de prendre des décisions si jamais il va sentir que la population est prête à accepter ces décisions. Donc, il faut qu'elle soit éduquée, entre guillemets. Il faut qu'elle soit prête, qu'elle ait réfléchi. Donc, notre travail en tant qu'ONG, c'est arriver à ce que les gens adoptent des comportements différents, mais aussi arriver à ce qu'ils aient pu réfléchir et qu'ils adhèrent finalement à ce discours et qu'ils adhèrent à ce qu'on leur propose, enfin, ou ce que même eux réfléchissent parfois entre eux. J'aime pas trop l'idée que les ONG ont la science. Et, nous, on a juste envie d'amener des questions sur la place publique et on a envie d'amener des réponses. On n'a pas envie de dire écoutez-nous, on prêche la bonne parole. C'est pas du tout ça. Mais par contre, c'est de dire ces questions, elles sont là aujourd'hui. Il faut les traiter, quoi. C'est un petit peu les sales choses qu'on a envie de mettre au frigo ou derrière nous. On les sort et on les dit bon, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant aussi de faire confiance aussi parfois dans les gens, dans tout ce qu'ils ont au fond d'eux. Ils ont parfois des bonnes idées et parfois il suffit de leur donner les moyens, leur montrer qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'il y a déjà un changement qui est en route et qu'ils peuvent s'intégrer dedans. Et je crois que c'est vraiment notre travail à nous, c'est de les accompagner vers ce changement, parce que quand on le fait tout seul, ce n'est pas facile.
C'est aussi mettre en valeur toutes les initiatives qui sont déjà présentes. Il y en a tant au Sud. Le Sud n'est pas juste victime. Il y a énormément d'initiatives qui se font dans pas mal de pays du Sud et puis ici au Nord. Donc tout ce qui est potager collectif, redonner une seconde vie à des vêtements ou à du mobilier, etc. Tout ça, c'est à valoriser et à faire valoir. Voilà.
On parlait tout à l'heure donc de la façon de penser qui devait évoluer, de prendre les problèmes de manière un peu plus systémique, donc de ne pas s'enfermer dans des sujets bien précis. Est-ce que ça ne remet pas aussi en cause la manière de travailler des ONG même, et quelle conclusion on peut tirer de ça justement?
C'est vrai que dans les dernières années, on a vu qu'on a été un petit peu forcé d'élargir notre prisme. Je parlais du commerce équitable où on a dû de plus en plus aborder la question environnementale. Mais je crois que ce n'est pas seulement sur les thématiques, mais je crois que même c'est sur la manière dont on travaille, où finalement on vient un petit peu amener nos solutions, je disais. Et maintenant, de plus en plus, c'est être à l'écoute du temps. Et finalement, les solutions, elles émergent plus toujours des ONG. Sarah parlait des potagers collectifs. Ce n'est pas les ONG qui créent ça. C'est vraiment des groupes de citoyens qui le font au niveau local. Et on ne peut que s'en réjouir. Et c'est intéressant parce que de plus en plus, quand on propose des alternatives, on ne propose pas les nôtres, mais on propose des choses qui ont été créées par des groupes de citoyens. Et je crois que maintenant, en tant qu'ONG, on est plus vecteur de valoriser des choses tant au Nord qu'au Sud aussi, hein, parce qu'au Sud, il y a aussi des choses extraordinaires qui se font tous les jours. Et c'est plus valoriser et donner un petit peu un écho, une résonance à toutes ces actions-là. Maintenant, c'est quelque chose de neuf, et je ne vais pas dire que toutes les ONG fonctionnent comme ça, parce que voilà, c'est aussi c'est un monde très vivant, et il y a un petit peu plein de manières d'agir différentes. Mais en tout cas, avec les organisations qui ont collaboré au Village Climatique, on est très, très attentifs à ces questions-là, oui.
On va peut-être passer un petit morceau de musique et puis on revient pour la fin de ce débat sur le festivalier et la justice climatique, toujours sur Radio Esperanza, radio.esperanza.be.
Radio Esperanza.
Radio Esperanza. Voilà, donc toujours pour la justice climatique avec Sarah, Antonella et Hugo. Et nous étions donc en train de parler un peu du travail collectif en fait qui a été créé par le CNCD pour faire que ce village des possibles soit possible, possible. Oh, not possible. Mais donc, justement, vous vouliez focaliser aussi à un moment donné une discussion à propos de ça, de cette, cette emphase qu'il y a entre toutes les associations présentes, ce travail collectif.
Donc, il faut savoir que donc le CNCD 1111 et Esperanza, on a un partenariat depuis une dizaine d'années. Et à chaque fois, on crée un village associatif qui porte la thématique de campagne du CNCD 1111 et de ses membres. Mmh. Et donc cette année, on a 7 associations qui sont présentes avec nous sur le village. Donc ça fait 3-4 mois, on a eu plusieurs réunions où on a construit tout ça ensemble. Et c'est assez intéressant de voir voilà, toute la dynamique qui se met en place chaque année pour essayer vraiment de sensibiliser de manière intelligente, construite, le public des festivaliers à nos thématiques de campagne. Et cette année, on a plusieurs associations. On a entendu parler de SOS Faim et de Oxfam. On a aussi le SLCD. Le SLCD, c'est le Service Laïque de Coopération et Développement. On a Quinoa, qui est une ONG d'éducation et développement, qui fait des projets internationaux. On a les jeunes FGTB. On a Entraide et Fraternité, et tout ça est coordonné donc, par le CNCD. Donc voilà, tout ça, c'est un collectif qui a mis du temps à fonctionner. Et c'est chouette, il y a plein de défis et de challenges, mais c'est vraiment important et intéressant de tous fonctionner ensemble.
Est-ce que dans la manière dont vous vous êtes réunis pour décider, entre guillemets, quelles étaient les associations qui allaient participer au festival, est-ce que le but recherché, entre autres, serait aussi de montrer un éventail de ce que propose le CNCD. Quel rôle chaque association présente ici sur le festival ? Est-ce qu'elles ont un rôle bien particulier chacune qui fait que le tout, l'ensemble collectif se complète ? Ou est-ce que vous avez vraiment juste une voie commune ?
En fait, on a décidé de... Donc, c'était assez ouvert, donc on a fait un appel aux différents membres du CNCD et même ailleurs, à d'autres ONG avec lesquelles on peut travailler mais qui ne sont pas forcément membres. Et voilà, et les personnes intéressées, donc les associations intéressées ont répondu. Et puis ça a vraiment été un processus collectif du début à la fin. Ça veut dire qu'il y a une mise en avant de toutes les associations. On a construit tous les espaces, tous ensemble. Il n'y a pas une association, si vous voulez, c'est pas Oxfam qui tient son stand. C'est vraiment un village avec tous les espaces construits ensemble. Donc il n'y a pas plus de visibilité pour l'une ou pour l'autre, si ce n'est que c'est coordonné par le CNCD 1111. Et donc... Ça, c'est vraiment une construction collective du début à la fin. Même les volontaires sont collectivisés. On les a formés tous ensemble. Donc, il y a eu deux formations.
Oui, qu'ils soient de SOS Faim, de Quinoa.
Où chacun est intervenu. Les associations ont formé l'ensemble des volontaires. Donc, c'est vraiment quelque chose collectif du début à la fin.
D'ailleurs, on ne m'entend pas. D'ailleurs, on ne voit absolument pas que vous venez de différentes associations. Vous avez tous un super petit shirt orange. J'en suis jalouse. Oui, mais voilà. Donc, il y a... Ça arrive pas souvent sur des événements que, ou si peut-être, je me plante peut-être complètement, que justement toutes les associations deviennent collectives, neutres, qu'on ne voit pas qui est qui.
Ouais. Mais c'est pas évident parce que c'est vrai que voilà, c'est la crise et que les associations, les ONG, elles recherchent aussi des fonds comme tout le monde. Et donc c'est vrai qu'on a tous envie aussi de pouvoir convaincre des gens pour avoir des donateurs parallèlement parce qu'on a aussi des projets dans le sud. Mais d'un autre côté, on a aussi des projets d'éducation, développement. Et parfois, notre but, c'est pas de récolter des fonds, c'est pas de nous mettre en avant, c'est vraiment de faire changer les mentalités. Et donc, c'est pas toujours évident de jouer sur ces deux tableaux-là. Mais ici, dans ce cas-là, on s'est vraiment dit, voilà, notre but, ici, on est là pour faire de la sensibilisation. Et en fait, finalement, on se rend compte qu'on a quand même globalement la même approche et les mêmes messages à faire passer. Et donc, c'est vraiment facile parce que ça coule de source. On doit pas se mettre d'accord au niveau des messages. C'est plus au niveau de la construction des outils. Et là, c'est vraiment très chouette parce que chacun arrive justement avec sa propre expérience et c'est pour ça que ça donne quelque chose de positif parce que chaque organisation a une expérience différente et qu'en construisant ensemble, on fait vraiment des choses intéressantes.
Alors juste un truc, vous êtes quand même vachement plus sexy dans des actions comme ça qu'à la recherche de donateurs. Voilà, enfin ça c'est mon avis personnel. Je trouve ça m'attire beaucoup plus d'aller voir justement ce que les ONG, les associations proposent dans des activités comme ça que se faire parfois alpaguer dans la rue en disant tiens en fait vous connaissez.
Franchement, oui. c'est vrai que c'est ennuyant, mais si on le pouvait, on ferait que de la sensibilisation. Mais voilà, malheureusement.
La sensibilisation payante.
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations, les ONG peuvent en Belgique relativement gratuitement bénéficier de subsides, de subventions. Mais ça ne suffit pas. Et puis surtout, ça ne nous garantit pas toujours l'indépendance au niveau politique. Et donc là, parfois, la seule manière d'être vraiment indépendant du politique et de pouvoir rester tout à fait critique, bon, même si en Belgique, on n'a pas trop ce problème-là, mais c'est d'aussi avoir des fonds propres. En France, par exemple, les acteurs de terrain, surtout pendant les années Sarkozy, disaient vraiment que c'était très difficile pour eux, un, d'avoir des fonds publics et deux, le rapport avec le politique. Donc même en France, qui est le pays voisin, c'est vraiment une question très cruciale. Donc en Belgique, voilà, il ne faut pas minimiser ça. Maintenant, d'un autre côté, je crois que les ONG, les associations peuvent faire un effort pour réfléchir à de la récolte de fonds de manière peut-être plus intéressante à travers des événements sportifs, à travers des concerts, des choses comme ça.
Des événements culturels, ça
voilà,
se fait de plus en plus.
Que d'aller un petit peu parfois mendier, c'est vrai. Mais, enfin mendier, entre guillemets,
on se comprend. Oui,
ouais.
Bien sûr.
Après, il y a des opérations qui servent aussi pas à alimenter le fonds propre, mais à soutenir des projets de développement dans le Sud. Ça se fait quand même de plus en plus. Et voilà, c'est aussi le cheval de bataille de l'opération Zonzon, ce qui soutient les projets des partenaires sud, des ONG membres, donc qui rendent des projets, etc.
Il y a le festival alimentaire aussi de SOS Faim.
Oui, tout à fait.
Donc voilà, c'est tout des, voilà, ce sont des chouettes initiatives, tout comme donc ici sur le festival Esperanza. Ça fait quand même, on disait, enfin, ça fait peut-être pas 10 ans que, si, ça fait quoi
donc, oui, ça fait
depuis 2004.
2003, je pense, 2004 que oui.
Longtemps.
Voilà. Longtemps. Disons que ça fait quasi 10 ans.
Ça fait quasi 10 ans.
Voilà, donc moi, en fait, j'étais en train de vous écouter, bien sûr, mais aussi en train de contempler un dessin de Kroll qu'on retrouve dans le dossier, qui est, que moi, j'aime beaucoup. Donc, ces deux petits bonhommes qui sont dans l'eau, ils ont l'eau jusqu'à la taille, et il y en a un qui dit, tiens, il paraît qu'avec le réchauffement, les gens du Nord ne pourront plus faire de ski. Et l'autre qui répond, oh, les pauvres. Donc, voilà, eux, ils sont déjà dans le Sud, ça monte déjà, et nous, on n'a plus de neige, ou quand on en a, voilà.
On en a... On râle.
Voilà, on râle. Et donc voilà, c'était aussi pour mentionner que...
On a un partenariat avec Kroll qui nous a fait plusieurs caricatures justement sur la justice climatique.
Et d'ailleurs qui est le parrain de la campagne, voilà. Avec Marlène Dorsena. Et c'est deux personnes que nous retrouverons demain,
oui,
pour
exactement.
Le débat suivant. Avec Primitive,
oui.
Qui est donc un human beatbox...
Wow.
Il a été champion de Belgique, je crois, ou c'est pas d'Europe, je sais plus.
Il a été champion du monde, vice-champion du monde.
Ouais,
online.
Je sais plus le dire. Voilà, super. Donc ils seront normalement tous les trois demain en studio pour le débat, le dernier débat déjà de Radio Esperanza. Ce sera les artistes et leur engagement pour la justice climatique.
Super.
Voilà.
Eh bien, merci de votre présence ici dans nos studios.
Merci à vous.
Le festivalier qui nous écoute, sachez que voilà, il y a des activités, il y a des choses qui vont être mises en évidence.
Venez nous voir. Surtout.
Voilà.
Surtout passer par le village.
Surtout, mais vraiment, parce que bon, c'est un festival de musique, ok. On a une radio, ok. Bon, et voilà, énormément d'activités musicales, mais sachez que il y a pas que ça forcément, et surtout la justice climatique qui est là derrière pour nous faire penser et surtout agir. Dans un instant, on va retrouver, si je ne me trompe pas, Élise avec Possible or Not Possible.
Et donc à tout de suite, merci à tous nos invités.
Justice climatique.